parlons patrimoine. Nous partons cette semaine avec Yoav Rossano, le chargé du patrimoine du consistoire israélien du Bas-Rhin, en direction de la synagogue de Marmoutier. Et nous sommes en bonne compagnie, puisque nous sommes en compagnie de Jean-Claude Veil, le maire de Marmoutier, ainsi que l'adjointe à la culture Ingrid Toldé. Aujourd'hui, cette synagogue a été réhabilitée.
On fêtera ses 200 ans cette année. Je raconte l'histoire suivante, souvent. D'ailleurs, on est en train de faire un devoir de mémoire important. Deux choses. Pour la rendre vivante, un peu, on a remis des personnages connus de Marmoutier. Et comme ça, disons, les gens savent qu'il y avait une communauté juive ici, vivante, avec des personnalités. Deuxième chose, c'est la guerre, où il y a eu la grande rupture terrible, quoi. Ici, j'ai la souvenance de Madame Plancherelle, Furman, elle habitait à 50 mètres d'ici, elle devait avoir 16 ou 17 ans, même moins, et elle était accompagnée par M. Valk, qui allait être centenaire, c'était le premier centenaire de Marmoutier, il est mort dans sa 100e année. Et les nazis, quand ils sont venus, les Allemands nazis, quand ils sont venus ici, ils ont transformé la synagogue en écurie, ils ont fait rentrer les chevaux ici. Et le Valk, il a dit à cette Furman, Marguerite, Hitlerle, jetzt hast du Krieg verloren. Le diminutif de Hitler, maintenant tu as perdu la guerre, en juin 40. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre qu'on profane un lieu de culte. Et Marguerite Plancherelle, Furman de nom de jeune fille, est devenue une très grande résistance. Elle était enfermée avec Antonius de Gaulle, etc. Elle a fait les camps, je crois qu'elle était à Ravensbrück, etc. Elle a fait plusieurs camps et s'en est sortie, mais très très diminuée. Et donc cette année aussi, et ça, ça fait des années et des années que j'y pense. L'ancienne marche de Marmoutier s'appelait marche d'Aquiléa. Aquiléa, hein, comme et de faire tous les ans une année consacrée à la culture juive et une année consacrée à la culture celte, puisque au niveau de la fondation du couvent, c'est le monachisme irlandais qui l'a fondé, donc Saint-Léobard. Et on a aussi trouvé un tumulus à côté de l'église, quoi. Donc il y avait déjà avant la guerre, la période de l'âge de fer, donc de Hallstatt et Etten, des boucles de ceinturon, des oreilles, des bracelets, des fibules, etc. Donc voilà, c'est un peu notre idée. Et cette année, sous l'égide d'Ingrid, on va consacrer cette année au judaïsme et à cet anniversaire.
Plus ancienne communauté juive d'Alsace, 14e siècle, hein, les premiers juifs qui se sont installés ici à Marmoutier. Il y a des traces encore aujourd'hui, et importantes aux communautés, ça c'est important de le dire aussi. Il y a des traces aujourd'hui ?
Alors, ce qui nous reste en fait, c'est ici, c'est un très beau cimetière, vraiment très beau, qui est bon, qu'on aussi là, avec quelques volontaires, on essaye de la réhabiliter, parce que bon, il est en pleine forêt. Et l'ancienne synagogue, c'était à 50 mètres d'ici, sous un bâtiment assez imposant, qui faisait partie de l'administration d'Iribeau-Pierre. Parce qu'il faut savoir qu'à partir du 13e, 14e, et après, les abbayes étaient sous le régime de la commande. C'est-à-dire, c'était les abbayes laïques qui mangeaient tout ce qu'il y avait à manger là-dedans au niveau ressources financières, quoi. Et ce bâtiment est à côté. Bon, là, il n'y a plus grand-chose, hein. C'était une communauté certainement enrichissante. Et le drame qu'il y a eu encore ici, c'est en 48. Il faut savoir qu'on appelle la révolution des peuples, hein, en 46-47. Et je sais de ma famille, les Ross, hein, qui est aussi un non-juif d'ailleurs, mais qui n'était pas juif, c'était des petits incites de campagne qui avaient du mal à boucler les mois. Et en général, ils avaient beaucoup d'enfants. Là, ils ont perdu en l'espace de quelques mois 3 enfants adolescents par mauvaise nourriture. C'est-à-dire les 46 et 47, 1846 et 1847 étaient surtout l'exemple le plus connu, c'est l'Irlande, hein, où il y a eu des morts. On chiffre à 1 million ou 2 millions de morts, des gens qui sont partis, etc. Mais ici, c'était pareil, c'était la mauvaise nutrition parce qu'il y avait trop de pluie. Donc tout ce qui était blé, etc., orge, etc., était mauvaise récolte. Et en 48, il y a eu de nouveau une bonne récolte. Mais au printemps, les villages autour, où il y avait les juifs qui avaient prêté de l'argent, etc., ils pensaient, en détruisant ces papiers, détruire aussi les dettes. Et là, c'est le premier drame qu'on a eu. Katz se disait toujours, il y a une trentaine de pourcents de juifs, et surtout les plus riches qui sont partis vers Strasbourg, quoi. Et ça correspondait aussi à un manque de recettes au niveau communal, qui avait perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent au niveau de la Révolution. Souvent, je dis, quand il y a un préfet, je dis, vous avez laissé tout le passif et vous avez emmené tout l'actif, l'État, quoi. Notamment des milliers d'hectares de forêt, etc., etc., quoi. Et voilà, donc et la communauté juive a commencé à décliner en 1848. Et je dis toujours que c'était Marmoutier, c'était un triptyque sociologique. Le monastère, avec la puissance publique, politique, économique, religieuse. Parce que c'est l'abbé qui nommait le rabbin, il faut savoir, au XVIIIe siècle. C'est l'abbé qui nommait le rabbin. Et la communauté juive qui faisait le commerce, où avait les juifs plutôt riches, les juifs pauvres, exactement comme les autres strates sociologiques de Marmoutier, et les corporations, qui étaient très puissantes à Marmoutier. Et voilà, et ça fonctionne ensemble, et la Révolution a fait écrouler tout ça, quoi. Et ici, encore un ensemble très cohérent du XVIIIe siècle qu'il faudra réhabiliter aussi, quoi. Et toute cette histoire, il faut laisser la faire revivre, parce que je pense que c'est avec nos racines qu'on arrivera à l'avenir, surtout en ce moment où on n'a jamais connu ça. Moi, je suis né en 45. Ce qui se passe en France, ça m'horripile, hein, je le dis franchement, hein, ça m'horripile, quoi. Avec cette extrême droite, les choses. Chaque fois qu'il y a des problèmes, on revient à ce mode de fonctionnement qui est complètement irrationnel. Rationnel, quoi, qui commence à manger notre bien-vivre et de bien vivre ensemble. Rappeler qu'il y avait aussi des gens qui venaient ensemble et cette diversité faisait la richesse humaine ici, quoi. Et ce qui est terrible, on a eu quand même, bon là ça pose en carrération, mais d'office on a eu 33 déportés quand même, morts en déportation, dont un, Cop Marcel, l'ami de Furman qui est mort au Sonnenberg aussi, résistant, quoi, ingénieur. Quoi,
donc la ville a été durement touchée.
En fait, on avait pratiquement 3000 habitants au 19e siècle, et là on n'a pas tout à fait atteint le nombre d'habitants qu'on avait au début du 19e siècle. On est descendu jusqu'à 1650 habitants à la Deuxième Guerre mondiale. Sur 6650 habitants, alors qu'on n'avait pas, on n'était pas touché directement par la guerre, il y a eu 69 jeunes qui sont morts, malgré nous, hein. 33 en déportation. Et voilà, donc ça fait quand même beaucoup de monde sur 1650 habitants. Hein.
C'est une grosse cicatrice, ça, dans les habitants de la ville de Marmoutier.
Oui, mais je trouvais, ce que j'ai dit toujours, moi qui suis né en 45, je trouvais que les gens, après 45, dans les années suivantes, il y avait une sorte d'insouciance qui s'installait, une joie de vivre, quoi. Malgré les trames que chaque famille a vécues, quoi. C'est incroyable, quoi.
Une résilience terrible de l'humain, c'est fou, quoi.
Parce que je vois, famille Lévy, le père, la mère, trois enfants, morts, je sais pas, Auschwitz, d'ailleurs, on va y aller à Auschwitz, hein. C'est incroyable. Quoi. C'est incroyable, je comprends pas. Je comprends, moi je crois. Je peux pas comprendre. Quoi.
Alors il faut peut-être, je sais pas si tu as parlé des travaux que vous avez fait ici, à la synagogue, par rapport à l'ouverture des.
Ah, ça, ouais, alors on a acheté une maison là, en face, quoi, pour qu'on on peut voir, pour de nouveau montrer ce qui était l'entrée de la synagogue avant, quoi. Et je pense qu'il faut mettre encore quelques tableaux, etc. Et d'ailleurs, de mettre l'ensemble de ceux qui sont morts en déportation ici, quoi, aussi peut-être. Et voilà, de continuer. Et ce qui est bien, franchement, et vous allez voir au niveau du musée, c'est des artisans qui ont commencé le musée, des artisans et des ouvriers. Donc, il n'y avait pas d'intellectuels. Le premier intellectuel, c'était Katz, quoi. Et donc, ils ont tout de suite intégré, en 77, la vie juive. Tout de suite. En fait, ils rentraient par là. Ouais. Il y avait donc un mur ici, une vieille maison ici que l'ABF ne voulait pas démolir. Ici, il y avait aussi un mikvé quelque part, je ne sais pas où. Donc, la façade d'André. Ça, alors, on a plusieurs versions. La version que j'aime, moi, c'est Israël, le père de Jackie, qui a fait enlever l'inscription qu'il y avait là au moment où c'est revenu au niveau civil, quoi, la synagogue, quoi. Et en contrepartie, on devait quand même entretenir une partie du cimetière, voilà. Alors, quelqu'un m'a dit que c'était déjà pendant la guerre, mais je ne crois pas. Je crois que c'était, d'après la tradition que je connais, c'est, maintenant je ne peux plus le demander. Je peux peut-être encore demander à la sœur de Jackie, peut-être qu'elle se souvient, mais elle est à Cannes, quoi. Enfin, je ne sais pas, à Dany, j'en sais rien. Voilà, donc on va mettre un peu d'argent ici, dedans, et ce sera plutôt à but culturel, quoi. Ouais.
Alors, il y avait une autre chose intéressante, que vous avez trouvé la Gnisa.
Je crois qu'il n'y avait plus rien, mais quand on a enlevé les planches, on a retrouvé...
C'est un petit Gnisa, c'est pas énorme, mais c'est intéressant quand même. Voir quelques livres de l'époque, il y a, si je me souviens bien, il y avait une invitation pour l'opéra ou quelque chose, oui, il y avait des morceaux de téfiline, voilà, alors c'est quand même incroyable, trouver encore des gnisins là.
Et qu'on date de quel moment à peu près?
Mais d'avant la guerre, hein, d'avant la guerre, parce qu'ils savaient, les gens sentaient qu'est-ce qui se passait, hein, je pense, hein, il n'y a pas de secret. Hein. Il y a aussi cette synagogue, contrairement à la synagogue par exemple d'Ingviller, de Westhoffen ou de Saverne, qui ont été construites à la fin du 19e siècle, style orientisant. Ça c'est une des premières synagogues qui a été construite après la Révolution française. Elle est grande, mais très discrète, quoi. Vous voyez, c'est sans emphase, voilà, c'est, voilà. Et après, c'était orientalisant, hein, ceux qui étaient à la fin du 19e, hein, on voit Ingviller, ceux que je connais, Saverne, Westhoffen, quoi. Ouais. Bon, c'était déjà une assez grande synagogue, hein, voilà, l'histoire un peu résumée de chaque personnage, quoi. Alors, Katz-Pierre, quand il est revenu à 55 ans, et il était militant du musée jusqu'à 79 ans, jusqu'à sa mort. Et Jackie, j'allais à l'école tous les jours avec lui. Et d'autres copains, c'était Gaspard Frédéric, qui était protestant. Donc on n'avait pratiquement pas de protestants dans le village. Et lui, c'est les derniers de la communauté juive. Un jour, il m'a dit, Jean-Claude, tu sais que je suis juif. Alors j'ai dit, bon. voilà. Et un jour, il m'a dit, quand il est revenu de Paris, il m'a dit, Jean-Claude, j'espère que tu es mon ami. Ça m'a touché.
Et donc le musée date de quand ?
La maison, c'est une maison patricienne, vous allez voir, de 1590, la maison. Et l'ouverture, le musée était dans une maison aussi de Renaissance en 77, et après on a été transféré, je ne me rappelle plus quelle année. Mais bon. Et ça, c'est cette fameuse maison qui faisait partie des avoués de Marmoutier, donc des Ribeaupierre. Et la synagogue était en haut, tout en haut. Quoi. Et certains pensent que c'est une des plus anciennes synagogues d'Alsace. Quoi. Donc la structure des rues que vous voyez, c'est encore la même structure qu'il y avait au XIIe siècle. Hein. Là-haut, là où il y a les camionnettes, les maisons, les murailles du XIIe siècle s'arrêtaient. Mais la structure du rue, c'est encore les mêmes qu'il y avait au XIIe. Chez nous, on peut passer par là. Chez nous, il y a beaucoup plus eu de pierres. Il n'y a pas eu trop de maisons alsaciennes, parce que comme la pierre était à disposition, et ça me rappelle mon grand-père, qui avait sa femme avait une maison alsacienne très imposante, comme celle-là avant, il ne voulait pas y habiter, parce qu'il disait qu'elle n'était pas saine. Quoi. Il préférait les maisons en pierre. Quoi. Ouais. Donc c'est là, le musée. Donc dans les années 2007, 2008, 2009, on a fait une action vis-à-vis du patrimoine, puisqu'on a rénové le transept pour 530 000 euros, relevage de l'orgue 200 000 euros et 400 000 euros dans le musée. Parce qu'on pense que le musée, il a souffert pendant la guerre de 30 ans, et après les gens ont bricolé, ils ont ça revenait trop cher, quoi.
Donc une vraie volonté politique de laisser ce musée au centre du village.
Ah oui, c'est important. Et c'était possession d'une famille juive, de plusieurs, et même de rabbins ici. Hein.
Alors ça, c'est l'espace d'exposition temporaire.
Temporaire, hein. C'est ça. Oui. Ouais.
La dernière expo était aussi intéressante.
Oui, c'était sur les rites et croyances populaires en Alsace. Et on avait consacré une vitrine aussi au judaïsme, avec des objets cultuels, mais aussi des talismans. Hein.
Oui.
Le tableau, il y avait aussi un tableau pour éloigner Lilith, hein, la première femme d'Adam. Hein,
ouais. On fait des tours de musée.
Après, on va dans la partie réservée au judaïsme.
Donc, vous êtes adjointe au maire de Marmoutier, vous êtes bénévole ici au musée de Marmoutier, et vous êtes veilleuse de mémoire.
Oui, et auparavant, j'étais bénévole aussi pour l'équipe de nettoyage des stèles au cimetière juif. Et donc, c'est avec quelques personnes, quand on a su qu'il y avait les veilleurs de mémoire qui étaient mis en place, des personnes m'ont rejoint pour continuer à veiller sur les lieux.
Et pourquoi cet engagement ?
Alors, je dirais que c'est un petit peu dans ma nature. Hein. J'aime beaucoup tout ce qui est culturel, patrimoine, etc. Et puis, j'aime le contact avec les autres et surtout le brassage. On apprend toujours de toutes les cultures. Et je pense que c'est un petit peu ce qui manque, pour revenir à ce que disait Jean-Claude tout à l'heure. C'est par méconnaissance des autres qu'il y a cette crainte, cette haine qui s'installe. et il faut apprendre à connaître toutes les cultures pour voir, pour les apprécier, pour se rendre compte en fait que tout le monde a le même but dans la vie, hein, être heureux, et puis voilà. Donc,
Ça c'est ma grande-tante qui était sage-femme à Marmoutier.
Jusqu'en 53.
C'est une chaise d'accouchement.
Ah ouais, c'est ça. Elle mettait ça sur le vélo. Hein. Mes cousines ont dit que c'était sur un vélo qu'elle se déplaçait. Ouais, ouais. Alors, il y avait peut-être un chariot derrière, mais bon.
Oui, mais...
C'est pliant, c'est pliant.
Il y a des charrières.
Et donc, ici à l'étage, on a la ch'taupe. Parce qu'en bas, vous êtes passé par la cuisine, c'était la petite ch'taupe, c'était pour des domestiques, hein, parce qu'on a vu que c'était une maison...
C'est une maison bourgeoise.
Une maison patricienne, oui. Plus que bourgeoise, ouais. Au départ c'est une maison patricienne, hein, parce que rien que L'Oriel montre que ce n'était habité que par des nobles au départ, hein. Parce que même des commerçants très riches n'avaient pas le droit d'avoir un Oriel. Et puis les différentes symboliques qui se rapportent à la religion, hein, donc avec les anges et puis qui diffusent la parole divine, etc. Et le fait d'avoir des étages aussi... Donc tout ça, ça montrait l'importance, la richesse des gens, et puis l'origine aristocratique. Hein. Donc il y avait une domesticité, donc, dans la petite ch'taupe, c'est là qu'il travaillait, hein, il faisait différents petits travaux. Et puis et ici, donc on est...
Ça c'est le lieu de vie des propriétaires.
Je me rends compte que j'ai oublié d'en parler. Donc on se trouve également une encoche de Mézouz.
Il y en a ici aussi une... Et là, vous voyez comme c'est clair déjà, la Renaissance qui éclaire c'est clair ici aussi. Avant, c'était des petites ouvertures, hein, donc on a refait... parce qu'il y a des fenêtres qui étaient fermées, parce que les impôts locaux étaient souvent basés sur le nombre d'ouvertures et la grandeur des ouvertures. C'est pour ça qu'on les a comblées, et là, on les a remis au goût du jour, quoi. Il faut savoir que quand cette maison a été construite, ces bâtiments ont été reconstruits au XVIIIe siècle. Donc avant, les autres bâtiments dataient du XIIe siècle. Hein. Les richesses ont aussi provoqué des destructions et des reconstructions. Ça, c'est aussi une partie remarquable du musée, certainement une des plus belles collections de poterie, hein, par la diversité et par l'ancienneté.
On va aller dans la partie juive.
Et donc, l'espace entre les deux bâtiments existait, mais il a été couvert. Hein. Et en arrivant ici, en fait, ce qu'on ne voit pas souvent, c'est cette très belle lampe de Shabbat. Parce qu'on descend, ouais. Et puis on va directement dans la partie sur le judaïsme, et puis on ne voit pas cette très belle lampe à toute manière. Donc Alphonse Lévy, hein, qui était sculpteur, peintre, caricaturiste... Mmh. Donc, qui est né à Marmoutier en 43, qui est décédé à Alger en 1918, oui, parce que sur la fin de sa vie, il allait souvent en Algérie, et puis donc il a également peint des scènes de la vie rurale algérienne. Dans cette partie-là, justement, comme on parlait d'Alphonse Lévy, on a une très belle collection de peintures et de lithographies d'Alphonse Lévy. Disséminé un petit peu dans tout le musée, mais on voudrait réserver un espace pour les mettre en valeur, parce qu'on en a d'autres qui ne sont pas encore exposés.
Nous voilà arrivés à la salle dédiée aux arts populaires juifs, au judaïsme.
Au judaïsme, oui, des objets de culte et puis des objets de la vie quotidienne.
Oui.
Alors, on a privilégié, en fait, une disposition par vitrine et donc des différentes fêtes religieuses, les fêtes religieuses les plus importantes. Ce n'est pas un cheminement chronologique comme au musée juif de Buxwiller, par exemple, hein, parce que déjà, on a un espace moindre, mais on a vraiment une très, très belle collection d'objets.
Absolument.
Oui,
c'est ça. En fait, peut-être tu peux raconter comment tout a commencé, le début de collection.
Alors, au départ, c'est vrai que le président de l'association, hein, qui était antiquaire, avait déjà lui-même une belle collection. Et puis, par des dons successifs et également des achats, hein, parce qu'on achète régulièrement, quand il y a des ventes aux enchères, etc., on achète régulièrement des objets. Et puis, comme l'avait rappelé M. Le Maire, dès 77, on avait déjà une partie consacrée au judaïsme. Et après, grâce à Pierre Katz, hein, qui a beaucoup aidé pour la mise en place et puis tout le travail de recherche, hein, pour tous ces objets de la partie juive. Donc là, on voit un très beau Gizeh, hein, l'entrée de la pièce, et puis les mezouzas.
C'est vrai qu'en Alsace, on a le musée juif de Buxwiller, mais sinon, il n'y a pas. Il y a une toute petite exposition au musée alsacien, mais qui date déjà vraiment de l'époque. Mais ici, on a un peu de tout. On a des objets, on a des mobiliers, on a des tableaux. Il y a une magnifique collection, comme tu as dit, d'Alphonse Lévy. Et en 2018, pour 60 ans de la synagogue de la paix, on a fait une grande exposition ensemble à la BNU. Et c'était apparemment l'exposition la plus visitée historiquement. C'était pendant 3 semaines. Et on avait un espace dédié au tableau et dessin d'Alphonse Lévy. Et le reste, c'était des explications, des photos de la synagogue de la paix. Voilà, aujourd'hui, on essaie vraiment de faire beaucoup de choses ensemble. Pas seulement par rapport le musée, mais aussi par rapport les cimetières, avec des bénévoles, les verres de mémoire,
des concerts. À l'église aussi, des concerts.
Voilà.
À l'église, on a eu pratiquement les polyphonies juives, il y avait du monde à l'église, elle était pleine, l'abbatiale était pleine.
Ils étaient venus en 2019 à la salle communale, donc oui. pour mettre en valeur justement l'ancienne synagogue. Et bon, c'était rempli, voilà, il y avait 240 personnes. Et donc, ils sont revenus l'année d'après à l'abbatiale, hein, donc dans un autre cadre. Mais il y a eu tout autant de monde, hein, donc c'était vraiment très apprécié. Hein. Et puis, donc avec Hector Sabot, hein, donc le directeur artistique des Polyphonies, on a fait, il a présenté une conférence-concert sur le livre qu'il a écrit sur les voix hébraïques. Hein. Donc là aussi, c'était très apprécié. Hein.
C'est important, oui. C'était l'inauguration de l'espace éducatif Albert Kahn, dédié à Albert Kahn.
Donc,
c'était en juillet, donc avec quelques autochromes qui sont toujours affichés sur le mur blanc.
Oui. Mais l'aspect symbolique est extrêmement important, c'est-à-dire que 6 bâtiments avec le nom d'Albert Kahn aujourd'hui.
Donc là, on a une très belle mappa, hein, donc c'est le lange sur lequel on dépose l'enfant au moment de la circoncision. Ça, c'est une particularité rhénane, hein, en fait. Donc, le lange est séparé ensuite en 4 parties qui sont assemblées et peintes. Et il y a le nom de l'enfant.
Yaakov Ben Shlomo.
On lui souhaite de bien étudier la Torah, de faire un beau mariage.
Oui. Et de bons actes.
Et de bons actes.
Ouais.
Et c'est d'ailleurs ce qui se retrouve ensuite sur les stèles, parce qu'en nettoyant les stèles du cimetière juif, les inscriptions sont en hébreu, et de l'autre côté de la stèle, elles sont en langue vernaculaire. Mais à partir de 70, elles sont restées en français. Hein, c'est pour parce que normalement, comme on était sous régime allemand, mais ça a été toléré. Hein, donc c'était resté en français.
Presque partout, c'est en français.
Oui. Et donc là, on peut lire de très beaux textes, notamment un mari qui, pour son épouse, hein, qui est vraiment des louanges très très chaleureuses et puis très émouvantes. Hein. Il y a des très très beaux textes. C'est toujours la description de la vie, mais c'est pas emphatique. C'est vraiment de la personne. C'était une bonne personne. Elle s'est souciée des autres. C'est un élément très important, hein, je pense, dans la culture juive, hein, de pouvoir de s'occuper des autres et puis
de donner.
Alors merci au maire de Marmoutier Jean-Claude Veil et à son adjointe à la culture Ingrid Toldé pour cette visite du musée de Marmoutier et dont une grande partie est réservée à la vie juive, à son quotidien, aux pièces religieuses. Ce musée qui est géré par des bénévoles et dont on retrouve à la tête de cette association Bernard Hoff.